Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, un grand peintre, Eugène Delacroix, à l'occasion de l'exposition Delacroix au musée du Louvre. C'est jusqu'au 23 juillet, en partenariat avec RTL. Bonjour, comme Fabre.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes le co-commissaire de cette exposition. 190 œuvres, c'est immense. Pourquoi le musée du Louvre, c'était un lieu important pour l'artiste, pour Eugène Delacroix?
Parce que Delacroix est chez lui, au Louvre, en fait. C'est un musée qu'il a adoré visiter quand il était jeune. Il y a étudié beaucoup. Mmh. Et puis, il y a peint un des plus beaux plafonds qui soit. Et puis aujourd'hui, c'est la plus grande collection au monde d'œuvres de peinture et de dessins de Delacroix.
Il a aussi participé au salon, au fameux salon avec un S majuscule, qui se déroulait au musée du Louvre. C'était quoi le salon au 19e siècle pour les artistes?
C'est tout simplement comme la FIAC, quoi. C'est la plus grande exposition d'artistes vivants au monde à l'époque. Ça se tenait tous les deux ans à peu près, et c'était au Louvre. Donc on décrochait les tableaux anciens, on remisait tout ça, et puis on montrait ce qu'il y avait de mieux dans la production contemporaine.
Puis il a fait du rififi un peu au salon, on va raconter ça, Eugène Delacroix.
Bien sûr, oui.
Des œuvres polémiques, on va évidemment raconter les histoires de ces toiles qui, pour certaines, dérangent parfois encore aujourd'hui. On vous raconte pourquoi dans un instant sur RTL.
Bonjour Marina Giraudeau.
Bonjour Julien Cellier.
RTL Petit Matin.
C'est un plaisir de vous réveiller, de vous informer et de vous étonner.
Interactivité, info, bonne humeur, c'est le menu de votre petit déjeuner.
Avec le surf de l'impertinent Cyprien Sini, l'expertise politique et économique de Pauline de Saint-Rémy et Christian Menanteau, les bonnes recettes du chef Pasto.
Et puis vos témoignages, vos avis sur l'actualité au 3210.
RTL Petit Matin avec Julien Cellier, chaque matin à 4h30 sur RTL.
RTL.
Tout au long de la carrière du peintre romantique Eugène Delacroix, son utilisation expressive de la couleur, des compositions dynamiques, ont provoqué l'indignation de ses détracteurs comme les louanges de ses admirateurs.
La curiosité est un vilain défaut.
Delacroix est considéré de nos jours comme l'un des plus grands artistes français du 19e siècle.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
À la frontière entre tradition du passé et modernité, la peinture de Delacroix aura une profonde influence sur les impressionnistes.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Un ogre romantique dans la curiosité, Eugène Delacroix, exposé au musée du Louvre et à la une du Télérama hors-série en partenariat avec RTL. Bonjour Bernard Mérigot.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes le directeur de ces hors-séries Télérama. À vos côtés, comme Fabre, le co-commissaire de cette exposition, l'œuvre de Delacroix, qui on peut dire la plus connue, qui a traversé le temps, même si elles ont tous traversé le temps, c'est cette fameuse liberté qui guide, la liberté guidant le peuple. Où et en quelle année elle a été exposée?
Alors, elle a été exposée au Louvre en 1831, à ce fameux salon, donc cette exposition d'art vivant. Et elle a évidemment désarçonné beaucoup parce que, disons, Delacroix représentait pour la première fois l'actualité française.
Ah, c'était un reportage, qu'est-ce qu'on y voyait? C'était quoi cette actualité française?
C'est la Révolution qui, en trois jours, à Paris, a renversé tout un régime, le régime de la Restauration. Donc c'était les petits frères de Louis XVI qui, après la Révolution, après l'Empire, étaient revenus au pouvoir. Le premier, ça allait, mais alors le deuxième est tellement réac que ça explose.
Donc c'est la Révolution de 1830, c'est ça? On y voit notamment une femme, c'est la liberté. Elle est seins nus, pour quelle raison?
Alors parce que c'est une allégorie. Delacroix a laissé les choses ambiguës. Disons que c'est à la fois une idée, l'idée de la liberté qu'on représentait traditionnellement sous la forme d'une femme belle, vêtue à demi-nue, vêtue à l'antique, souvent avec des ailes. Et puis en même temps, il lui a donné une présence charnelle qui est celle d'une vraie femme du peuple.
Bernard Mérigot, est-ce que ça fait polémique ce tableau à l'époque?
À l'époque, oui, c'est le réalisme qui fait polémique. Effectivement, c'est pas une beauté antique qui charge, c'est une femme du peuple. Et puis, il y a dans ses seins à l'air aussi une symbolique de la mère nourricière, de la mère patrie. Mmh. Et elle a une carnation de peau, elle a du grain de peau, alors qu'on est habitué aux beautés un peu lisses de Ingres ou aux beautés de marbre du peintre David. Donc oui, ça fait polémique. Et ça n'est absolument pas une œuvre de reportage, c'est une œuvre totalement de fiction, c'est-à-dire qu'il n'a pas participé à la Révolution de la Croix. C'était un promeneur durant la Révolution. Mmh. Alexandre Dumas dit même qu'il a connu rarement moins révolutionnaire que ce garçon-là. Et en fait, Delacroix est un peu en difficulté après le scandale du tableau de Sardanapale pour les commandes. Et il se dit, c'est une occasion de me refaire une réputation et il se saisit quand même de ce thème-là.
Ce qui est incroyable quand même, c'est que 187 ans après, La Liberté guidant le peuple fait encore polémique. Et quelques jours, les modérateurs de Facebook l'ont censuré, comme il l'avait fait d'ailleurs très injustement pour l'origine de la vie de l'origine du monde de Gustave Courbet. Est-ce qu'il y a encore des pays où on ne peut pas exposer cette liberté guidant le peuple de Gênes de la Croix aujourd'hui, au XXIe siècle?
Au XXIe siècle, peut-être pas, mais au XXe, il était prévu en 1956 une tournée de la liberté dans les pays de l'Est, dont Moscou. Et c'était quand même une grande période de glaciation soviétique et la tournée était annulée parce que c'est la symbolique qui choquait et pas les saints.
En 1831, est-ce que ce tableau, La liberté guidant le peuple, change le destin de Gênes de la Croix ?
Disons que c'est la fin d'un cycle. Ça ferme une période dans laquelle il a essayé de connaître la gloire avec une rapidité foudroyante en exposant au salon d'une édition à une autre des tableaux toujours plus grands, toujours plus provocants, toujours plus audacieux, et notamment dans la manière ultra réaliste de donner chair, de donner corps et sang à l'histoire.
On entendait dans la mise en onde de Sébastien Duduit Eugène Delacroix choqué par ses couleurs. Alors aujourd'hui, quand on dit choqué par des couleurs, ça paraît un peu étonnant. Qu'est-ce qui pouvait être choquant dans l'utilisation de sa palette?
Alors la palette de Delacroix, c'est peut-être pas dans La Liberté qu'elle est la plus délirante, parce que justement il a pris soin de réduire un petit peu ses tons, c'est beaucoup de gris, beaucoup d'ocre, pour mettre en valeur le bleu, blanc, rouge, parce que le vrai sujet de La Liberté guidant le peuple, en fait, c'est la résurrection du drapeau tricolore qui avait été censuré en France pendant 15 ans. Mmh. Et pour Delacroix, ça réveille des souvenirs patriotiques très forts. Mais ce qui avait choqué dans d'autres tableaux, en revanche, c'est la manière dont il juxtaposait avec une violence incroyable, des tons complémentaires. Par exemple, pour faire une ombre, au lieu de mettre un peu de gris sur la peau, eh bien, il met du rouge et du vert juxtaposés qui, de loin, forment une impression de vibration étonnante. Mmh.
Bernard Mérigot, il y a 190 œuvres de Delacroix qui sont exposées au Louvre, mais on a choisi celle-là pour commencer parce que c'est la plus connue, c'est celle qui est devenue un symbole. Comment, pourquoi ce tableau est devenu le symbole républicain qu'on a même retrouvé sur des billets, pour ceux qui se souviennent du franc.
Déjà, Delacroix met un bonnet phrygien à sa liberté, donc fait une référence directe à 1789. Oui. Donc c'est la grande révolution qui a marqué l'histoire du monde, la Révolution française. Et donc c'est devenu l'incarnation de ce tableau-là. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, confondent entre les Trois Glorieuses pour lesquelles ça a été peint et la Révolution de 1789.
Et la place du Delacroix sur les billets de 100 francs, ça, c'est à quelle époque ça,
Alors ça, je serais incapable de répondre.
Années 90, c'est ça, le tableau sur les billets de 100 francs?
Oui, ça c'est... C'était jusqu'en 1995,
ça a commencé
dans les années 70.
D'accord,
ouais.
D'accord.
Des scandales, Eugène Delacroix en a connu d'autres et du talent évidemment. En 1827, il expose la mort de Sardanapale. On vous fait découvrir cette autre œuvre majeure sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Cette femme, vous l'avez déjà vue quelque part. Devenue une évidence pour tous, c'est Marianne, l'incarnation de la République française.
RTL.
Or, notre vision est complètement déformée. Cette femme provient d'un tableau peint à une époque où la France n'était pas une république, mais un royaume.
Si Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Il a été peint par un homme résolument anti-républicain, sceptique face à la démocratie. Ce peintre est Eugène Delacroix, un vrai dandy parisien, horrifié par tout ce qui peut être vulgaire ou populaire.
On est bien entre curieux sur RTL.
Et à l'occasion de la rétrospective Eugène Delacroix qui démarre aujourd'hui au Musée du Louvre, on découvre les grandes œuvres du peintre avec Côme Fabre, qui est co-commissaire de cette exposition, et Bernard Mérigot, directeur du Télérama hors série consacré à cette expo en partenariat avec RTL. Donc on vient de parler de La liberté guidant le peuple. Autre œuvre, on est en 1827. Eugène Delacroix présente quelle œuvre au public ?
Mort de Sardanapale.
Oula.
Alors, enfin, les présentations, c'est qui Sardanapale déjà?
Alors Sardanapale, ouais. C'est un roi de temps très reculé, des temps babyloniens, et qui est acculé à la défaite, c'est-à-dire que son palais est sur le point d'être incendié, il refuse d'être fait prisonnier, et donc il choisit de se suicider en faisant au préalable égorger tout ce qui lui a donné du plaisir dans sa vie, ses femmes, ses esclaves, ses chevaux rares, ses chiens, ses trésors aussi, toute sa fortune sur un immense bûcher, et il se fait immoler.
Et c'est ce que représente Delacroix dans son tableau ?
Tout à fait.
Donc on imagine un grand tableau, forcément, pour pouvoir
un
montrer tout ça.
Un immense tableau, ouais. Je ne sais plus, ça fait au moins 5 mètres sur 4. Ouais. Et c'est une avalanche de corps, d'objets, mélangés avec des chevaux. Et
c'est sensuel, c'est terrifiant. Ça inspire quoi au public qui découvre ça au salon, donc au musée du Louvre en 1827 ?
C'est entre volupté et morbidité, c'est excessif en tout. Il met la peinture à feu et à sang. Les femmes qui, d'ordinaire, prennent des poses de Pietà ou de Marie-Madeleine au pied de la croix sont des demi-mondaines vautrées au pied du sybarite. C'est une peinture scandaleuse pour l'époque, évidemment.
Mais est-ce
qui est habituée quand même à un orientalisme à la Ingres, qui est un orientalisme très paisible, très rassurant. Et Ingres qui traitait lui-même Delacroix de Robespierre de la peinture.
Ah, et c'est ça vraiment, Eugène Delacroix, il a toujours aimé tout dynamité dès son plus jeune âge ? Comme
oui,
Fabre.
C'est ça. Il ne respecte là, dans Sardanapale, il ne respecte pas la perspective, il ne respecte pas la clarté de la composition. Le dessin aussi est parfois défectueux. Il préfère lâcher son pinceau plutôt que de ne pas dépasser les bords. Donc, il brise effectivement toutes les règles.
On dit souvent que ce tableau, La mort de Sardanapale, lance en quelque sorte, allume la bataille du romantisme. Pourquoi ?
Parce que effectivement, c'est un pavé dans la mare et que beaucoup de critiques ne supportent pas cette évolution de l'art français. Ils veulent que tout le monde marche au pas derrière le grand maître qui était David. David qui était parti en exil parce qu'il était trop proche de Napoléon avant 1815. Mais on ne supporte pas que quelqu'un soit aussi individualiste, aussi singulier, aussi original. Et ça, c'est vraiment le cœur du romantisme.
Aujourd'hui, quand on présente Eugène Delacroix, par exemple, dans les livres d'art plastique, on dit... C'est le chef de file du romantisme. Est-ce qu'il l'a voulu ? Et qu'est-ce que c'était le romantisme au XIXe siècle dans la peinture ?
C'est difficile à définir. Mmh. En tout cas...
Parce que ça n'a pas l'air très romantique ce qu'il fait, si on prend ça au sens littéral du terme.
Ah oui, romantique, si vous entendez par romantique, comédie romantique, fleurs bleues, etc. Rien à voir. Dans le romantisme, en tout cas dans la littérature et dans la peinture, c'est au contraire, c'est l'art du contraste, juxtaposer la beauté et la laideur, le bouffon, le grotesque et le tragique, jouer absolument sur les contrastes. Et ça, ça se sent autant dans le théâtre de Victor Hugo que dans la peinture de Delacroix.
Alors dans cette émission, on aime comprendre, avoir les grandes lignes, ce que vous vouliez nous exposer, et puis aussi quelques anecdotes. Et j'ai lu en préparant l'émission que Delacroix a posé pour le radeau de la Méduse, l'œuvre principale, le grand œuvre de Géricault. C'est vrai, ça ?
Oui, il a fait la connaissance de Géricault lorsqu'il est rentré à l'atelier de Narcisse Guérin. Géricault était son aîné de 7 ans. Mmh. Ils se sont liés d'amitié. Il avait une vive admiration pour Géricault, pour sa touche picturale, pour la vigueur de sa peinture. Et effectivement, durant la composition du radeau de la Méduse, il a posé, et c'est c'est au premier plan, le jeune homme qui, au centre, gît sur le ventre, sur le radeau.
Alors, est-ce qu'on voit son visage à Eugène Delacroix ? Est-ce que c'est un beau garçon ?
Ah, il est pas mal.
Sur le radeau, on voit pas son visage.
Sur le radeau,
on voit ses magnifiques cheveux. Il avait des cheveux bruns, très bouclés, très abondants. Mm-hmm. Mais dans l'exposition, on peut voir des portraits ou des autoportraits qu'il fait quand il est jeune. Il a une certaine beauté plutôt brun ténébreux.
Je disais que c'était un peu le roi. Ça aurait été le roi des réseaux sociaux aujourd'hui. Évidemment, c'est un peu un anachronisme. Mais il aimait se peindre. Il aimait se montrer, se mettre en scène.
Il n'aimait pas trop se peindre. Il a fait quelques autoportraits, très inachevés, comme il aimait bien faire, mais avec un regard assez ferme et assez orgueilleux, quand même. Il fixe bien la postérité. Et puis, l'époque le décrit avec des yeux fauves, une expression féline, les lèvres fines et minces un peu bridées, une physionomie d'une beauté farouche, étrange, exotique, presque inquiétante. On eût dit un Maharaja de l'Inde.
Tout est dit. Ah,
ça, c'est... Un chat ou un tigre, en
un
fait.
Chat ou un tigre.
Et en fait, ce par quoi il se représente le plus, c'est par la liberté de sa touche, de sa brosse, qui est tout le temps visible.
Et on va vous raconter dans un instant comment il est devenu peintre, cet orphelin ruiné qui est devenu un grand homme, un grand nom de la peinture. Récit à venir sur RTL.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Pendant les journées Audi All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Du 17 mars au 14 avril, offrez-vous votre Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelles sur l'entretien, le financement et les accessoires. Profitez de toute l'expertise et du savoir-faire d'Audi sur plus de 4000 modèles d'occasion certifiés. Audi Occasion Plus, entrez dans l'univers Audi. Retrouvez le détail de ces offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr/occasion. Journée All Access signifie journée exceptionnelle.
Sécurisez votre domicile. Exigez la qualité Picard Serrure. Porte blindée certifiée, origine France, garantie. Picard Serrure, ça rassure.
C'est aujourd'hui qu'on voit les experts EOVI MCD Mutuel.
Oui.
Mais ils viennent ici?
Oui.
Et ils vont m'aider?
Oui.
Et ils ont vraiment une complémentaire santé adaptée à notre entreprise?
Oui.
Et ce sera rapide?
Oui.
Et ils vont aussi mettre en place des actions de prévention santé?
Oui.
Et moi, qu'est-ce que je dois faire alors?
Vous pouvez prendre un petit café, par exemple.
Ah oui.
Voilà.
Avec EOVI MCD Mutuel, des experts vous accompagnent au quotidien pour la santé et le bien-être de votre entreprise. On vous prévient, au début, ça va vous faire bizarre de lâcher enfin prise. EOVI MCD Mutuel? Parce que vous n'êtes pas un numéro.
Allô patron?
Des nouvelles?
De Lidl Voyage? Oui, un séjour 8 jours 7 nuits en Tunisie à Zarzis. En chambre double à l'hôtel Eden Star 4 étoiles pour 299€. Et c'est une offre exclusive en all-inclusive.
Ah bah si je comprends bien, tout est compris.
Eh ben voilà, vous avez tout compris.
Eh ben on est mal, tout mal.
Lidlvoyage.fr, le vrai prix de vos rêves. Séjour à partir de 299€ par personne en chambre double tout compris. Offre valable du 27 mars au 2 avril inclus sous réserve de disponibilité. Plus d'informations et conditions sur Lidl-voyage.fr.
La musique sur RTL, c'est ça.
RTL vous joue les tubes d'aujourd'hui, mais aussi les plus grands classiques.
Toute la journée, vos artistes préférés sont sur la première radio de France.
On aime la musique sur RTL.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
C'est le titre de l'exposition qui s'ouvre aujourd'hui au Louvre à Paris et c'est aussi la une du Télérama hors série. On raconte la vie et l'œuvre du peintre qui fit polémique au 19e siècle et continue de faire réagir et de régaler notre regard. Comme Fabre, vous êtes le co-commissaire de cette exposition. Bernard Mérigot, le directeur de Télérama hors série. Il naît dans quel milieu, Eugène Delacroix? Et comment il vient à la peinture? On va faire une existence un peu raccourcie, évidemment.
Oui, alors Delacroix, il vient d'un milieu plutôt favorisé dans la famille, du côté de sa mère. Ce sont des très grands ébénistes qui ont travaillé pour le roi à Versailles avant la Révolution. Et puis du côté de son père, il a été député, ministre, ambassadeur. Il est mort préfet en poste à Bordeaux en 1804.
Donc tout semble plutôt agréable et bien parti. Et pourtant, Eugène Delacroix va perdre ses parents très jeune.
Très jeune, son père il a 6 ans, sa mère a 16 ans. Et en plus, il y a eu des investissements financiers malheureux, ce qui fait qu'il est orphelin et ruiné alors qu'il arrive à l'âge d'homme.
Comment il va se sortir de ça, Eugène Delacroix? Est-ce qu'il va en souffrir? Au contraire, il va être tenaillé d'une ambition incroyable?
Bah, il a une niaque pas possible, parce qu'il est les derniers de la fratrie, et puis il se souvient de ses grands frères qui ont été généraux, colonels, barons de l'Empire, qui se sont battus pour Napoléon sur les champs de bataille, donc lui il veut être un grand homme dans la famille, mais ce sera par son pinceau.
Bernard Mérigot, l'ambition, c'est un des mots qui résume le mieux Delacroix, Eugène Delacroix?
Oui, il veut réussir, il le dit dès le premier salon auquel il participe en 1821 avec la barque de Nantes, il veut se faire un nom, c'est manifeste, et il fait tout pour. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une nature sincère, mais il a aussi une ambition.
Mais ça veut dire qu'il oriente ses choix artistiques aussi pour ça? C'est ce qu'on a évoqué un petit peu rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il veut choquer, il veut faire parler de lui?
Il veut créer le buzz?
D'une certaine manière, oui, ouais. Il veut créer le buzz, oui, et puis il y arrive bien, quand même.
Il choisit soigneusement ses sujets pour être aussi, se distinguer en fait. Ce qu'il faut, c'est être original à tout prix.
Qu'est-ce qu'on sait de la vie intime d'Eugène Delacroix, homme marié, enfant, maîtresse, on veut tout savoir.
Alors sur le papier, vous regardez son état civil, il n'a rien du tout, ni marié, ni même fiancé, mais en revanche des femmes, ça y en a eu.
C'est vrai? Qui étaient ces femmes?
Oh, ces modèles
Alors, il y a eu effectivement beaucoup de coucheries avec les modèles qu'il a fait poser nus dans son atelier. Et ça, il le raconte sans aucun complexe dans son journal de jeunesse. Il y a même les prix. Alors, on ne sait pas trop si c'est pour la pose ou pour ce qui s'est passé juste après.
On comprend pourquoi c'était important pour Eugène Delacroix de faire l'amour avec ses modèles?
En fait, c'est oui, il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire l'appropriation charnelle du modèle, c'est aussi un moyen pour lui d'aller au cœur de la rencontre avec l'humain et de projeter cette sensualité dans sa peinture. Il prend un plaisir fou à détailler la peau de ses modèles, y compris souvent des modèles qui sont métisses, voire aussi à la peau noire. Alors, c'est...
Allez-y, terminez, pardon.
Non, c'est un moyen pour lui, en tout cas, de montrer que grâce à la peinture, on peut exprimer beaucoup d'émotions juste avec la couleur et non pas forcément avec les gestes ou avec les mimiques du visage.
Donc grâce à vous, on a découvert Eugène Delacroix, on a découvert aussi qu'il avait le sens de la polémique. Est-ce que malgré ses détracteurs, malgré les critiques, il avait des amis ?
Oui, il fréquentait assidûment Georges Sand, Chopin, Berlioz, Dumas. Il n'était pas toujours tatant avec eux. Il n'aimait pas l'écriture de Dumas. Il trouvait que Georges Sand avait mauvais goût. Il parle de Balzac avec une vision de pygmée. Il a quand même la dent très très dure avec ses contemporains, fussent-ils ses amis quand même.
Et ses contemporains ont eu la dent dure avec lui. On disait qu'il dessinait mal. C'est vrai ?
Oui, ou qui peignait avec un balai ivre.
Voilà. Il y a une très belle citation de Delacroix sur le dessin.
Pour finir.
Qui dit « Si vous n'êtes pas assez habile pour faire le croquis d'un homme qui se jette par la fenêtre pendant le temps qu'il met à tomber du quatrième étage, vous ne pourrez jamais produire de grandes machines. »
C'est magnifique. Merci Bernard Mérigo. Le Télérama hors série en kiosque en partenariat avec RTL. Merci à vous, Côme Fabre. L'exposition qui s'ouvre aujourd'hui au Louvre Delacroix. Bonne chance à vous.
Vous écoutez RTL.